Rapid Transfert International, l'application de transfert d'argent simple, rapide et sécurisée, vous présente Radio Foot International.
Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Radio Foot International. On embrasse la dame au passage, elle est à l'écoute, on le sait, et on file vers un sommaire chargé comme un lundi. Et pour éviter, comme chaque lundi, que vous vous agaciez façon rageux des choix faits, ce dont on ne parle pas aujourd'hui, on en causera demain, c'est le principe, c'est-à-dire de l'Angleterre, de l'Italie ou encore de l'Allemagne. Il y en aura pour tout le monde. Au programme du jour donc, la Ligue 1 en long, en large et au sommet surtout. 4 équipes en 4 points toujours. C'est ça qui est bien, mais Paris devant, c'est ça qui change. Le PSG atomise Lyon pendant 65 minutes avec les 99e et 100e buts de Mbappé en Ligue 1. Suffisant pour profiter pleinement du faux pas lillois sur ses terres face à Nîmes. Paris devant, c'était juste une question de temps, Eric Rabessandratana ?
Ouais, je pense.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et si finalement, ce qui allait coiffer tout le monde au poteau, c'était les Monégasques. 12 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur leurs 15 derniers matchs de Ligue 1. Les hommes du Rocher sont là, 4e, à 1 point de Lyon, à 4 du tandem Paris-Lille. En 2021, ils n'ont pas d'égo. Mais certainement pas mal d'égo pour certains joueurs, ça c'est autre chose. Et puis quelques mots sur Marseille, 6e, loin, très loin, l'OM donc. Et cet effet Sampaoli qui n'aura pas duré trop longtemps quand même, hein. Karine Galli, bonjour.
Bonjour Olivier. Mais les effets Sampaoli ou les effets Pochettino ou les effets nouvel entraîneur qui arrive me font
c'est
toujours beaucoup rire. Sur deux matchs, il y en a un et puis le troisième il perd, donc en fait il n'y a rien et puis ça revient. Ouais. Il faut du temps en fait, c'est le principe un petit peu de.
Mais moi on m'a fait venir pour vous faire rire. On m'a dit viens lundi, Yagali, tu vas la faire marrer. Bon bah voilà.
Olivier, c'est réussi, c'est très bien.
La claque 3-0 reçue à Nice samedi a ramené tout le monde à la raison et éloigné le club d'une 5e place, seul objectif à sa portée désormais. Après la Ligue 1, direction l'Espagne, où un tout petit, en ce moment, Atlético Madrid préserve 4 longueurs d'avance sur le Barça et 6 sur le Real. Et puis deux géants que l'on pensait perdus pour le titre, hein, Barcelone notamment, mais qui sont là. Et bien là, le Barça avec Messi, bien sûr, et sa bande, le Real avec Benzema et peut-être personne d'autre. C'est ça qui peut inquiéter. Enfin, nous terminerons cette émission en Afrique, bien sûr, alors que les sélections se retrouvent aujourd'hui pour préparer les deux dernières journées de qualification pour la CAN 2021 de 2022. Hein, on aura le temps de vous réexpliquer tout ça. Les acheminer, ces internationaux, notamment de France, a été compliqué, mais les choses se sont décantées ce week-end et c'est quand même mieux comme ça. Alors ça suffit comme ça. Le communicant du jour, c'est Pierre-Olivier Guérin. Les idées de David Finzel, que l'on salue tout particulièrement. Et à la baguette, Thibaut Manuel.
Le premier ballon de l'Italien, le centre vers Marcelo. Et encore Anthony Lopez. Mais cette fois-ci, au deuxième ballon, il y avait l'inévitable.
Paqueta, pas de faute, ça joue avec Verratti qui a vu le départ de Kylian Mbappé et à la course qui va bien plus vite bien sûr que Marcelo. Le quatrième but de Kylian Mbappé, le coup de poignard de l'attaquant parisien et surtout le centième en Ligue 1 de Kylian Mbappé. 4-0 pour le PSG après 50 minutes.
On va diffuser vos 100 buts que vous avez marqués. Ah. Vous allez la regarder ?
Non, je les connais par cœur.
Et aucun doute qu'il les connaît tous par cœur, ces 100 buts inscrits en Ligue 1, Kylian Mbappé. Moi, je connaissais même pas par cœur le nom de mes invités. Il y a un monsieur qui est là juste à ma droite. On sait pas. Qui êtes-vous?
Je ne sais pas moi-même.
Vous travaillez à l'équipe, on me dit?
Absolument! Et quel plaisir d'être avec vous. Et en plus, on va parler d'Afrique. Aussi. Quel bonheur!
Incroyable, je ne l'avais pas
surtout
vu, dites donc.
Bonjour à toutes et à tous.
On parlait de lui il y a quelques dizaines de minutes avec Michel Dussuyer. Là aussi, j'aurais pu le dire que quand on allait parler d'Afrique, on entendrait le sélectionneur. Du Bénin, ça va tellement vite tout ça. Allez, revenons à Kylian Mbappé. Soyez le bienvenu, néanmoins, mon cher Hervé.
Ça bien plaisir. Sûr.
Vous avez le droit de parler avant le dernier quart d'heure aussi. Il n'y a pas de problème. Le goût du sang, j'aime bien ce qu'ont titré nos amis de l'agence France Presse aujourd'hui pour saluer la performance de Kylian Mbappé. 100 buts en 142 matchs, dont 84 avec le PSG en 101 matchs, les 16 autres bien sûr avec Monaco, le tout à 22 ans. Un petit mot chacun et chacune d'abord, Karine. Voilà, c'est le phénomène, on le sait, mais on a parfois besoin qu'il nous le rappelle.
Oui, oui, bien sûr, mais il y a toujours besoin qu'il le rappelle, parce que lui-même, après le match, lorsqu'il a expliqué cette barre des 100, il a dit « j'écris mon histoire, c'est que le début, je dois encore progresser ». Lui, il est là pour battre tous les records, il veut être jugé comme un joueur déjà accompli qui doit tout gagner, donc on le juge aussi sévèrement parce que c'est un joueur hors norme et parce que lui-même a des objectifs hors norme. Mais hier soir, pour revenir à la prestation d'hier soir, c'est une prestation totalement réussie de Kylian Mbappé. Il a eu une saison compliquée globalement, je trouve, lors des grands rendez-vous notamment, mais hier soir, il a été très bon, comme il avait été très bon face au Barça. Et il faut aussi le dire, quand il est juste du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'il a fait hier. Il a été juste dans tous les compartiments et il a même aidé défensivement, et ça, c'est beau.
Monsieur Penaud, justement.
Phénoménal hier. Honnêtement, la manière dont il a joué contre Lyon, la vitesse, la puissance, l'explosivité, on ne l'avait pas vu comme ça depuis très longtemps. Alors, comme contre le Barça, effectivement, il y a quand même eu des larges ouvertures et de larges couloirs offerts par Lyon, parce que là, il se régale dans ces cas-là. Et on a vu le Mbappé qu'on devrait voir plus souvent, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que cette année, ça a quand même été un Mbappé un peu à deux vitesses, en dépit de tout le talent qu'il a. Mais quand il est comme ça, il est quasi inarrêtable, surtout au niveau championnat de France. Mais attention, quand on défend aussi mal, et on défend quasiment sur de l'individuel sur lui, bah il est évident que si vous avez la vitesse de Marcelo, la vitesse de Chilio ou Dubois, vous n'existez pas.
Et vous êtes gentil quand vous parlez de vitesse. Mon cher Eric, vous auriez adoré un gars comme Mbappé. Hein.
Ah bah oui.
Vous l'auriez regardé.
Pas pour défendre dessus, mais pour le voir jouer, bien sûr. Non, Mbappé, il est en pleine forme, tout simplement. Au bon moment. Franchement, au bon moment. Alors, il a bossé pour. Il est passé aussi après le Covid, donc il a eu Covid quand même. Donc ça joue aussi peut-être dans les performances. Et après, il a eu la chance de faire une préparation. On a eu la chance de voir hier tous les 100 buts de Mbappé, qui sont aussi des buts magnifiques.
Lui, il les a pas regardés. Hein,
non, il les a pas vus, mais nous on les a vus. Et c'était voilà, c'est toujours passionnant de voir ces. Bah, c'est cette qualité qu'il a de finition. Hier, il a fait le match parfait, je trouve, vraiment, comme disait Karine, dans tous les compartiments. Surtout, bah, forcément, on va regarder celui où il fait pas grand-chose en général, défensivement. Il a bossé énormément. J'ai vu traverser le terrain pour aller défendre. Alors, c'est pas forcément bien tactiquement, mais dans l'état d'esprit, c'est quand même formidable. Voilà, donc il est en pleine forme. Il enchaîne. Il avait fait doubler contre Lille. Il fait doubler contre Lyon. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Alors peut-être un peu moins pour Paris, parce que partir pour 3 matchs, j'espère qu'il sera pas trop utilisé. Malheureusement, je pense que si.
Surtout qu'il s'agit d'aller en Bosnie, au Kazakhstan.
Ouais, c'est des gros voyages. Et puis voilà, c'est aussi de la fatigue et il y a des gros matchs à jouer pour Paris derrière. Donc j'espère qu'il sera pas trop utilisé, mais forcément, quand on a Mbappé dans son équipe, on a envie de le faire jouer.
Oui, parce que les joueurs français, on rappelle qu'eux, ils ont tout de suite, dès le départ, eu le droit d'aller voyager hein, et
oui,
de revenir peinard. Pas tout à fait comme les autres, on y reviendra.
Et pas comme les joueuses aussi de l'équipe de France féminine. Parce que les joueuses.
C'est vrai, différence de traitement entre les joueurs et les joueuses.
Ah ben, les joueuses de l'équipe de France féminine, lorsqu'on a fait le rassemblement au mois de mars, il y en avait qui jouaient en Angleterre, elles n'ont pas pu venir, tout simplement. Voilà.
Ah oui, ça,
donc
c'est aussi
on en est là quand même.
Finalement,
il y a une discrimination évidemment entre la France et les autres pays, mais en fait il y a une discrimination en France tout simplement entre l'équipe masculine et l'équipe féminine.
Ouais, c'est tellement d'actualité finalement. Oui, oui, oui. Merci pour cette information, Karine. Je disais, il arrive à temps, Kylian Mbappé, au bon moment, parce qu'on sait que les échéances arrivent hein, pour Paris. Il y a un dernier gros rendez-vous en championnat, ce sera face à Lille dans 15 jours, la prochaine journée. Puis il y aura bien sûr le Bayern Munich en quart. Mais revenons donc sur ce Kylian Mbappé, 20 buts cette saison, 8 depuis la trêve. C'est tout bon pour son club qui récupère Neymar aussi. Hier, ils étaient en mode Ligue des Champions.
Oui. Ouais. Après, franchement, hier, ils nous ont offert une heure où
oui, ça n'a duré qu'une heure, hein, il faut le rappeler.
Mais où tout le monde était au diapason, tout le monde
était
au niveau, et c'était extrêmement plaisant à voir à la télé. J'imagine qu'Hervé a pris encore plus de plaisir au stade. Mais voilà, c'était collectivement juste. Il y avait de la qualité, il y avait des beaux buts, il y avait tous les joueurs qui étaient concernés. Il y a des joueurs comme Kim qui n'ont pas marqué, mais ce qu'ils ont fait sur le terrain, c'était tellement utile pour l'équipe qu'il faut aussi le féliciter. Après, il y a eu un Lyon extrêmement décevant, mais j'ai avant tout envie de relever la prestation aboutie des Parisiens, et pour une fois, ils ont profité des faux pas de leurs poursuivants, parce que la semaine dernière, ils étaient dans la même configuration et ils s'étaient lamentablement plantés face à Nantes.
Eric, vous avez l'impression d'une montée en puissance, encore une fois, la vraie échéance, c'est vrai que là, Ils sont en tête du championnat, c'est à la différence de but, mais on voit bien qu'autour, ça commence à moins flamber, à fléchir un peu.
Ouais, je crois aussi. Ouais.
Le garde, hein, on a cette impression, on va y revenir, mais il va y avoir le Bayern. Donc il faut de toute façon monter en puissance.
Ouais, monter en puissance, je suis pas sûr qu'il monte en puissance. Je pense que Paris a
sur les autres
a des joueurs. Paris a des joueurs fatigués, vraiment fatigués, et je pense qu'ils vont être capables de faire des coups comme ça. Alors forcément sur les gros matchs, peut-être pas sur tous les matchs, mais sur les gros matchs, ils vont être investis beaucoup plus que dans le championnat. Je pense que c'est ça qu'on va voir sur la fin de championnat, parce que eux aussi sont fatigués, comme quasiment toutes les équipes d'Europe, avec la fatigue, la répétition, ceux qui ont chopé le Covid ou pas. Donc tous ces paramètres rentrent là. En plus, la préparation n'a pas eu lieu. Il y en a eu une petite avec Pochettino, mais pas assez pour dire que c'était une préparation, même si elle a été plutôt bien faite. On a récupéré des joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'apporter ce qu'ils apportaient avec Tourol, c'est-à-dire que tous les Draxler, même si il est toujours au ralenti, mais n'empêche qu'il est décisif quand même de temps en temps. Des joueurs supplémentaires, c'est pas les titulaires habituels, c'est ceux qui étaient à côté qui amènent quelque chose normalement. Là maintenant, ils amènent quelque chose. Du coup, ça permet de voir un Neymar aller au bout de sa convalescence pour revenir et ne pas aller trop vite et peut-être se reblesser rapidement. Là, il a eu le temps de se préparer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris qui va enchaîner pas mal de compétitions et de matchs importants.
Oui, parce que là, c'est la trêve internationale encore une fois. Donc Paris passe encore au top, mais ce qu'il y a de certain, on a l'impression que c'est autour, que ça se tasse, que ça rentre un petit peu dans le rang. On est tous d'accord pour dire que l'OL a été inexistant, mais d'abord parce que bien décevant. On va écouter Rudy Garcia, puis après, vous donnez chacun votre avis, bien sûr. D'abord Rudy Garcia.
C'est pas un problème de plan de jeu ce soir. C'est un problème de manque d'impact athlétique, et ça c'est... pas possible contre une équipe qui s'est mise en mode grande équipe de Paris, parce qu'il faut aussi souligner que Paris a été très bon ce soir, mais que nous, on n'a pas été suffisamment bien dans tous les paramètres, y compris l'utilisation du ballon. Après, la course continue, il reste 8 matchs, on est encore dans la course, donc c'est pas le problème.
Oui, la vraie course de l'OL, finalement, c'est la course à la Ligue des Champions, pas tellement au titre, Hervé.
Mais ça a toujours été l'objectif prioritaire. Alors bien sûr, les gens, les supporters, même à la rigueur les observateurs du football, à un moment rêvent peut-être d'une possibilité pour Lyon, pour Lille, pour Monaco, de venir taper le Paris Saint-Germain. Mais il n'empêche, il ne faut pas oublier les priorités du club d'abord. Ce qu'il faut pour Lyon, c'est être en Ligue des Champions. S'ils font 2 ou 3, alors 3, il y a le tour préliminaire, c'est un petit peu différent, mais s'ils font 2, pour eux, c'est une saison parfaite. Parce qu'à première vue, ils sont moins forts que le Paris Saint-Germain. Simplement, ils pouvaient profiter cette année d'un Paris Saint-Germain qui en est déjà 7 défaites, évidemment. Mais Lyon ou Lille, de leur côté, ils feront un sacré championnat. Ouais. Lyon, ils ont 4 défaites depuis le début du championnat. Et c'est très très peu. Même dans leurs grandes années, ils arrivaient à 7-8 défaites à la fin de
Monaco,
saison.
Et Monaco qui est là aussi. Hein,
et Monaco qui est là, non, mais je parlais de Lille-Monaco, ouais. Et Monaco de la même manière. C'est-à-dire que c'est quand même, Lille fait une saison énorme aussi. Ils doivent être à 3 ou 4 défaites. Donc c'est rien pour une équipe comme Lille. Donc simplement, Paris Saint-Germain, eux, c'est soit ça gagne, soit ça perd. Et ça gagne quand même un peu plus que ça perd. Et donc c'est des 3 points qui s'accumulent.
C'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs. Ils sont à 20 victoires. Donc ils sont devant.
Ouais, parce qu'ils font pas
pour
de
ça.
Nul,
ouais. Voilà, donc les autres sont, les mieux sont à 18 victoires. Donc Lille, je pense que.
On va reparler de Lille. Hier, ce qui est perturbant, c'est de se dire que on rentre dans le match à la 65e, alors que vous êtes quand même à domicile. C'est perturbant de se dire que Memphis Depay, votre meilleur joueur, passe au travers.
Ils sont passés.
Ça marque un peu le pas. Je regardais match nul à Marseille et à Reims. Bon, rien de petit succès face à Rennes 1-0 et là, une grosse défaite.
Bah, c'est ça. En 2021, ils sont beaucoup moins bien.
8 points sur les 6 derniers matchs. Donc ça veut tout dire.
Ils avaient eu un mois de novembre et de décembre étincelant. À ce moment-là, c'était le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Et depuis janvier, ils ont quand même marqué le pas. On voit que même lorsqu'ils ont fait des résultats, c'était dans la difficulté, qu'ils n'étaient pas aussi bons sur l'intégralité d'un match. On les a vus retomber dans leur travers de l'époque. Contre Reims, c'est 0 la première mi-temps, et en seconde, ils peuvent gagner 2-1. Bon, finalement, ça se termine sur un match nul. Mais moi, là où je ne suis pas totalement d'accord avec les garçons, c'est quand vous dites que ça montre quand même le niveau du championnat. Mais moi, je suis atterré que le probable vainqueur du championnat en 2021 ait 7 défaites, et il va peut-être en avoir plus. Je veux dire, je trouve que quand même, ça montre que cette Ligue 1, elle est très faible. Il y a
une... Ah bah c'est le contraire, moi je vais te dire.
Non, pour c'est-à-dire moi,
être capable de battre 7 fois le Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut avoir la capacité à les battre. Parce que là, on parle quand même d'une équipe qui est largement au-dessus du lot.
Non, ça veut dire que c'est le PSG qui se présente dimanche face à Nantes. Évidemment, il y a écrit PSG sur les joueurs des maillots, mais est-ce que tu avais l'impression que c'était le PSG qui jouait ?
Certainement pas.
Ben voilà.
Certainement pas.
Et le problème, c'est qu'en fait, tu vas avoir un championnat qui est très indécis et c'est plaisant à suivre. Ça, je suis d'accord. Oui, enfin. Mais en termes de qualité.
Ben moi, là, je suis pas du tout d'accord avec ce raisonnement. Ben
moi, en termes de qualité, je suis déçu.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on voit des bons matchs.
Ah non, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur une année particulière. C'est-à-dire que voilà, tu as un virus qui traîne, il y a des joueurs qui ont été touchés par ce virus.
La préparation a été forcément...
La préparation a été changée. L'impact du virus sur les gens est aussi importante. C'est-à-dire que à Paris, par exemple, tu as un Sarabia qui était bien avant de choper le virus et qui est l'ombre de lui-même maintenant. Donc il faut récupérer. Il y a des joueurs qui récupèrent plus facilement. Keane, il l'a chopé. Et ben là, hier, tu as vu qu'avec le boulot qu'il a fait pendant le match, ben, il est quand même super important. Et pourtant, c'était il y a deux semaines qu'il l'avait. Donc tu vois, cet impact-là, il est quand même important. Il faut le retenir par rapport à ce qu'on peut voir sur le championnat. Donc Paris est moins bon cette année, mais il y a tous les paramètres. Il y a aussi des équipes comme Lens qui les ont battus au début de saison, mais qui font un parcours extraordinaire. Je trouve que le championnat est plutôt pas mal. Maintenant, il est dans des circonstances un peu différentes. Je pense que sur une saison normale, avec une préparation normale, Paris ne perd pas cette fois. C'est sûr.
C'est quand même difficile de défendre la Ligue 1, la lumière, par exemple, des résultats européens qui sont quand même. Non, mais c'est évident.
Mais nous, il faut bien qu'on juge la Ligue 1 par rapport à la Ligue 1.
Mais bien sûr, monsieur, vous en vivez.
Mais honnêtement, les matchs, on voit des matchs de bon niveau. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant de matchs sympas, indécis, avec du rythme, du jeu. Une équipe comme Lens, qu'on l'attendait pas du tout, joue super bien au ballon.
Lens,
Metz, ça fait des matchs incroyables.
Bien sûr, les Grenades.
Et je regrette, mais Lille et Lyon, ils font pas un mauvais championnat. Monaco fait pas un mauvais championnat. Lille, ils peuvent finir leur championnat avec plus de points que l'année où ils sont champions. Parce que c'est quand même des équipes qui jouent, qui ont profité de ce qui se passait en ce moment pour.
Mais Hervé, dans le même temps, Monaco qui a cassé l'hégémonie parisienne, c'était deux défaites en 2017.
Oui, mais là, t'arrives à. Oui, mais t'imagines que Lille, ils étaient qu'à trois défaites. C'est-à-dire que là, on arrive, et j'attends de voir, parce que moi, je suis moins certain que beaucoup de gens qui me disent, ah bah, ça y est, le championnat est joué.
Moi,
j'attends de voir même de PSG Lille. Parce que Lille, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons là. On va voir, il va y avoir les deux semaines de pause. Ils vont se régénérer un peu, même si beaucoup partent en sélection. Oui, mais Monaco, le fait d'avoir 4 points de retard, c'est déjà 2 matchs. 2 matchs contre Paris, ça va être dur quand même. Je parle pour le titre.
On va y revenir. Juste encore un mot sur Lille, parce qu'on a l'impression quand même que ça pioche un peu ces dernières semaines. La défaite hier face à Nîmes à domicile, ça fait tâche. Nîmes 18e à ce moment-là. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier, puis on en parle rapidement.
C'est la Ligue 1, c'est comme ça. Même si on en avait parlé, même si on avait tiré la sonnette d'alarme, voilà, ça nous est arrivé ce soir. Nîmes n'a pas volé sa victoire, c'est une victoire méritée de la part de Nîmes. Notre entame de match a été très, très moyenne, on a été absent dès le départ, on a mis du temps à rentrer dans le match. On a été contré, ce qui est quand même pas habituel chez nous. On a sûrement oublié certains fondamentaux, certains principes de jeu qui ont fait que les Nîmois ont eu leur chance tout au long de cette rencontre.
Il y a des super joueurs.
Castri et Christophe Galtier. Je vous demande de vous taire maintenant.
Oui, je vous en prie. C'est non, parce que vous avez pas voulu présenter, à un moment, je me mets à parler.
Donc, nul à Monaco. Bon, ça, il n'y a rien de honteux. Défaite 3-0 au Parc en coupe, quand même, là. Défaite là, face au 18e. Que se passe-t-il? À Lille, il faut juste se revigorer un peu.
Moi, je pense simplement que, on rentre dans le money time et qu'ils ont les genoux qui tremblent et que c'est difficile de gérer cette domination dans le championnat. Quand t'es devant et que c'est des places difficiles à gérer, faut avoir l'habitude et l'expérience. Je pense que là, ils ont un peu craqué. Ça veut pas dire qu'ils vont craquer jusqu'au bout, mais, voilà, au moment où il fallait être un peu costaud dans les têtes, ben ils ont craqué tout simplement.
Il y a un manque de jus, moi je trouve, parce qu'il y a des joueurs qui aussi, étaient évidemment importants et qui là on voit Roro, Bamba, ils sont rentrés un petit peu dans le rang. Mais honnêtement, j'avais misé sur Lille champion, donc je suis encore en lice. Mais je pense que Christophe Galtier, c'est vraiment l'homme qui peut les rebooster, parce que quand il y a eu des claques face à l'Ajax par exemple, il s'était pas gêné pour les tenser vertement, et derrière il y avait eu des réactions en championnat. Et cette équipe de Lille, je trouve qu'elle est quand même très complète, qu'il y a un vrai collectif, même si dans le jeu c'est moins bon, ils sont pas largués, ils sont à égalité hein, avec le PSG.
Bien sûr.
Et effectivement, c'est 15 jours, ça peut leur permettre de charger récupérer. Et vous parliez de résultats qui étaient en dentis, bien sûr, mais le match contre Monaco, ils doivent plutôt le perdre, ils font match nul. Et des rencontres comme ça tout au long de la saison, il y en a eu. Contre Montpellier, ils reviennent plusieurs fois, finalement, ils l'emportent 3-2. Il y a contre Strasbourg, ils s'en sortent alors qu'ils avaient été en difficulté. Donc c'est quand même une équipe qui parfois, quand elle a été dans le dur, elle est arrivée à faire un résultat, que ce soit match nul ou victoire, c'est déjà bien. Après, hier, ils se font prendre en compte, ils sont cuits, et les Nîmois méritent leur victoire. Mais ça arrive, Paris s'est fait taper par Lorient, Monaco c'était Strasbourg, enfin, ils ont tous eu des défaites qui font un peu tâche.
Alors, quelques mots sur Monaco, le tube de 2021, parce que c'est vrai que c'est l'équipe qui a pris le plus de points en 2021. Depuis le 20 décembre, il y avait une série de 3 défaites de rang, hein, entre le 6 et le 15 décembre. Et puis là, depuis le 20 décembre, 12 victoires, 2 nuls, une défaite, c'est 38 points pris sur 45 possibles. C'est la patte Kovac qui, voilà, ça y est, il a mis son empreinte, son emprise. Et c'est le milieu de terrain, m'ont dit notamment nos deux jeunes dans la rédaction, qui disent c'est le milieu de terrain Sofiane et Xavier qui a pris le pas à Monaco.
Je pense que c'est le.
Il parlait de Tchouaméni, Fofana, bien sûr.
Ouais, mais il a amené une certaine discipline aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une organisation, ils travaillent dans cette organisation. Il y a l'état d'esprit, il y a les qualités des joueurs aussi, parce qu'ils ont un bel effectif quand même, Monaco. Donc c'est pas réellement surprenant, sauf que ils ont trouvé la bonne personne pour donner le lien et l'osmose un peu sur le terrain, et du coup ça tourne bien. Ils ont eu le petit trou là, comme tu dis, au mois de décembre, et puis après voilà, c'est reparti, on se remet en question, et puis on repart, et on est là sur cette année, et la dynamique est bonne. C'est l'équipe qui est sur la meilleure dynamique pour l'instant.
Vous Hervé, 4 points, vous estimez, à vous entendre, que c'est déjà quasiment rédhibitoire?
Ah non, là je peux pas dire ça.
Il
reste 8 journées, on peut rattraper 4 points. Mais enfin, si le Paris Saint-Germain est en mode un peu Coupe d'Europe, ils peuvent perdre des points par-ci par-là. Ils vont jouer quand même contre Lille. Bon, ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais sinon, après, il y a peu d'adversaires vraiment les embêter. Donc 4 points, ça me paraît beaucoup. Maintenant, je parierai rien aujourd'hui parce que à mon avis, tout est possible. Lyon peut tout à fait revenir dans le jeu et Lille évidemment s'imposer. Mais Monaco, c'est l'équipe qui joue le mieux aujourd'hui. C'est l'équipe qui a un vrai système de jeu depuis le début de saison, parce que je les avais vus jouer à Lyon. Ils avaient fait une première mi-temps catastrophique, mais avec vraiment un plan de jeu qui était de jouer haut, de prendre des risques. Alors, ils avaient été plombés parce que, effectivement, Rudy Garcia avait joué un peu plus bas, jouant sur la vitesse de ses attaquants. Ils avaient pris 4 buts à la mi-temps. Mais il n'empêche qu'en deuxième période, ils avaient un peu resserré les rangs, ils avaient toujours eu cet esprit-là. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, à part au Parc, évidemment, où là, ils ont peut-être été un peu plus regroupés derrière, mais tout en sortant relativement bien, même très bien. Mais il n'empêche que c'est une équipe qui, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et là, on voit la patte de l'entraîneur.
Bien sûr.
Un petit mot, Karine, parce qu'on vous y voit à Monaco, oui, oui, et pas que pour contourner le confinement.
Non, alors malheureusement, je tiens à vous dire que cette année, j'ai pu y aller qu'une seule fois, et c'était pour le Monaco PSG remporté 3-2. Mais vendredi, j'étais à Saint-Etienne, et effectivement, c'est pas pareil.
Là, on contourne moins le confinement.
Dur pour les Verts, cela dit au passage.
Mais il y avait deux choses qui étaient marquantes, c'est Saint-Etienne. Fait très peur, c'était terrible ce qu'on a vu vendredi soir, mais effectivement du côté de Monaco, il y a une qualité collective, il y a un plan de jeu qui est très identifié et identifiable comme le dit Hervé, et c'était une équipe qui marquait toujours beaucoup de buts et qu'en prenait, et ils ont réglé ses problèmes défensifs, et donc maintenant c'est une équipe qui continue à marquer beaucoup de buts et à en prendre beaucoup moins. Donc elle a sa place sur le podium. C'est vrai que le titre, ça me paraît être un petit peu compliqué, mais en tout cas elle a sa place sur le podium, et c'est une réussite parce que Kovac a été en danger, il y a eu ses 3 défaites, il y avait eu des cartons contre Lyon. C'est une défaite dans les grandes largeurs et il y en avait eu d'autres. Et finalement, il a eu le temps de travailler, et on lui a fait confiance et c'est bien.
Mais tout est là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de penser que les entraîneurs sont des magiciens. Moi, c'est un truc qui me met hors de moi. C'est, rappelez-vous, Zidane étant l'exemple évidemment le pire, où c'est 2 défaites, on dit finalement, il va peut-être même pas finir l'année.
Il est arrivé, c'est un magicien.
Et voilà. Donc, c'est-à-dire que l'histoire des magiciens, un entraîneur, ça a besoin de temps. C'est comme Sampaoli, il a fait deux matchs. On va parler de l'OM. Mais c'est comme
bien.
Ça.
On l'oublie. Et pourtant, il fait le métier après.
Si on parlait de l'OM.
Monsieur Guérin, double cachet pour Monsieur Penaud.
J'espère bien.
Appelez la dame pour voir si elle valide.
J'espère
double
bien.
Double cachet pour Monsieur Penaud. Parce que, oui, effectivement, parce que on parle de Monaco, c'est forcément cette saison le club phare dans le sud, puisque Marseille n'y arrive toujours pas avec Monsieur Sampaoli. 2 victoires, ça c'était plutôt bien, hein. Alors on s'emballe vite, ça y est, c'est l'effet Sampaoli, bibing. La grosse claquouse samedi après-midi, 3-0 à Nice, pan. On écoute le nouvel entraîneur argentin après cette défaite et on en parle de 3 minutes.
Creo que el primer tiempo desde juego fue favorable para nosotros.
La première mi-temps nous a été favorable, nous étions supérieurs dans le jeu. On s'est retrouvé mené 1-0 à la pause de façon injuste car on a mieux joué que l'adversaire. En seconde période, on a commencé à abandonner le collectif. C'était l'anarchie dans le jeu, ce qui nous a fait commettre des erreurs.
Anarchie et une désespération qui nous a conduit à commettre des erreurs.
Bon, alors, c'est retombé dans les travers. Il faut reconnaître que dans cet OM-là, on a l'impression que quel que soit l'entraîneur, il y a un truc qui ne va pas dans l'entente entre les joueurs et que tant que certains ne seront pas partis, ça n'avancera plus.
Non, mais déjà, les deux premières victoires, il ne faut pas oublier quand même que c'est tiré par les cheveux. Contre Rennes, c'est un miracle. Hein, une erreur défensive d'Aguerd alors que juste avant ils prennent le poteau. Contre Metz, c'est une erreur de Brest, c'est une erreur de Jean-Lucas aussi. Là, ils sont revenus un peu plus à une forme de normalité. C'était pas exceptionnel avec Sampaoli. J'avais bien aimé la première mi-temps contre Rennes où je trouvais qu'ils avaient donné du volume, du rythme, de l'intensité. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il a un système de jeu qui demande beaucoup d'efforts. Mais il peut pas en arrivant dire maintenant faites des efforts s'ils ont jamais travaillé pour ça. Donc ça prendra du temps. Là, c'est pas mal pendant deux mois, il va voir l'effectif, connaître un peu les forces, faiblesses des uns des autres, puis on verra Sampaoli à partir de l'année prochaine. Ce qui l'empêche pas d'essayer de gagner des match maintenant et peut-être qu'il reviendra.
Là, il limite la casse tout simplement. Ouais, pour l'instant, il va finir la saison, il va essayer de faire du mieux possible, mais clairement, avec cet effectif, tu peux peut-être pas tirer mieux que ça et que voilà, il faut attendre et voir ce qu'il y aura comme changement pour justement satisfaire un petit peu les exigences de...
Il faut aller chercher Lens, quoi, le cinquième, pour être en Ligue Europa la saison prochaine.
Dur, oui, ça va être dur.
C'est trois points d'avance.
Oui,
hein.
Après, c'est pas effectivement impossible, parce que on a vu face à Brest, il y a deux mois, ils auraient peut-être gardé le match nul ou même perdu, et ils sont arrivés à aller chercher la victoire. Contre Nice, leur première mi-temps, elle est pas infamante. Après, ils explosent en seconde période, et puis Nice aussi a fait un bon match. Mais on voit bien que dans cette Ligue 1, de toute façon, il va pas tout révolutionner, c'est évident. Enfin, on parlait de la patte Sampaoli contre Brest. Si tu regardes bien contre Brest, ils n'ont pas du tout le ballon. Le principe quand même de Sampaoli, c'est de faire un pressing de dingue et d'avoir une possession de balle très haute. Donc on avait vu tout l'inverse contre Brest et
ils avaient
gagné.
La première mi-temps contre Rennes, franchement, on s'est dit tiens, c'est quelque chose de différent. Après, bon, le reste, ils retombent un peu dans leur travers. Et puis on parle de Rennes. Rennes, ils sont aussi en course pour cette cinquième place. Hein.
Oui.
Et même Metz.
Oui, il y a
donc,
un paquet. Pourquoi même Metz comme ça, mais présent avec nos amis.
Quand je dis,
je vous rappelle que bon, il a beau être nancéen là-bas.
Mais c'était pour ça. C'est pas respect pour Eric. Stock moi.
Allez, voilà pour la Ligue 1, l'Espagne.
La mejor liga del mundo.
Leo Messi encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
La mejor liga del fútbol. Del mundo, hein, c'est ça. Ils sont contents de les Espagnols. Pourtant, cette année, c'est pas hyper, hyper emballant. Hein,
non, quand on regarde sur le. On n'a pas une très grande Liga.
Hein. J'en profite, c'est le moment où le Réfé est allé se laver les mains. oui, c'est pas terrible. Là, en Europe, l'Atlético, c'est bof-bof en ce moment. C'est le leader. C'est marrant, l'Atlético, on pensait tous, il y a 2-3 mois, c'est plié, la Liga.
Oui,
hein. Avec les matchs en retard et tout ça, il y avait 10-12 points potentiellement d'avance sur le Barça. Donc, tout allait bien. Le Barça était pas au mieux. Et puis finalement, il n'y a plus que 4 points sur le Barça. Aujourd'hui, 6 sur le Real, on a le même nombre de matchs à jouer. Et hier, on peut vraiment dire, même si depuis le début de saison, Luis Suarez a un rôle important avec ses 19 buts, c'est vraiment merci aux Blacks. Il y a quand même un peu de mou dans la corde à nœud du côté de l'Atlético.
Oui, oui, ils sont dans le dur, honnêtement. Effectivement, moi, je les mettais largement favoris parce que pour le coup, en Liga, ils proposaient du jeu. Ils jouaient, ils étaient plaisants et ils étaient leaders et ils étaient effectivement portés par Luis Suarez en attaque, mais c'était mérité. Depuis, ils ont eu quand même un gros trou d'air. Ce week-end, c'est pas bon, mais ça gagne 1-0. Donc, ils peuvent s'en sortir comme ça.
Avec un pénalty arrêté par Oblak.
Voilà. Et après, toutes les équipes ont aussi des trous d'air. Là, on parle beaucoup du Barça parce qu'ils ont trouvé un système de jeu et ils sont à nouveau compétitifs. Mais l'Atlético peut tenir comme ça. Le principal, c'est quand tu as une période de creux, parce que toutes les équipes ont des périodes de creux, de quand même gagner des matchs. Et là, l'Atlético a quand même réenclenché la spirale positive en championnat. Ils sont sortis en plus de la Ligue des Champions. Donc,
oui, ils n'ont plus que cela.
Ils ont un match à Séville. Hein.
Oui, et puis ils ont surtout un match le 9 mai au Camp Nou. Qui risque de valoir son pesant de cacahuètes si on en reste là, parce que bon, vous vouliez peut-être dire un mot l'un et l'autre sur l'Atlético ou on arrive tout de suite sur
le... Tout a été dit,
on peut annoncer le but de Suarez au Camp Nou, ça fera plaisir aux anciens dirigeants du Barça.
Ça fera quelque chose. Sûrement, hein. Parce que le Barça pour l'instant c'est ta-ta-ta-ta-ta, hein, c'est façon mitraillette, 6-1 hier quand même à la Real Sociedad qui est cinquième. La course au titre, là, elle est vraiment lancée.
Et on se
et le
dit,
Barça n'a plus que ça en tête, quasiment. Aussi.
Et on se dit, heureusement que Paris Saint-Germain a pris le Barça au match aller une semaine avant. Il n'aurait pas fallu le prendre parce que depuis, on a l'impression que ce sont des avions.
Hein. Le match retour, même.
Le match retour, ils n'ont pas mis la balle.
S'il n'y a pas le pénalty arrêté de Messi, on ne sait pas comment la soirée
Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est la chasse aux Colchoneros, on le disait, ils avaient 10 points de retard.
Ça fait mal à Eric qu'on dit ça.
Non.
plus que 4 aujourd'hui. Quoi, Koeman a trouvé la bonne formule. Messi, alors c'est une conjugaison, Koeman a peut-être fini par trouver une bonne formule. Messi est en forme, très en forme, avec des stats de dingo.
C'est
18
tout,
buts, 8 passes décisives sur les 14 derniers matchs. Donc il avait pas bien digéré son été dernier, et puis finalement il s'en est remis, il s'est mis dans le sens de la marche, et derrière, ce qui est différent du Real dont on reparlera, c'est que Dembélé est là et il revient en équipe de France, Griezmann commence aussi, l'équipe s'est rééquilibrée, donc c'est vraiment un Barça de nouveau très 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 compétitif dans son ensemble.
Avec Dembélé en pointe, et je me souviens, j'ai fait une émission ici même, et j'avais dit, il va falloir se poser la question sur Messi. Bon ben voilà, il a répondu. C'est que la question, maintenant, elle se pose plus.
Il répond
tout
le temps, à quel moment il a des petits moments, oui, mais sinon...
Non, voilà, mais c'était sur le nouveau Barça, c'est-à-dire à partir du moment où tu refaçonnes un nouveau Barça, sur une nouvelle dynamique, à un moment, il faut se poser la question sur les joueurs cadres, comme c'était posé sur le Real avec Ronaldo, etc. Mais on est obligé de se poser la question.
Tu poses la question, mais tu sais, voilà, le truc, c'est que le mec, il va te répondre tout de suite, parce que son efficacité, son talent, même s'il a décroché un petit peu au début de saison, et, regarde, à la fin, tu vois ce qu'il fait, tu dis, mais voilà, c'est un extraterrestre quand même.
La dernière défaite en Liga, ça remonte au 5 décembre contre Cadiz. Depuis, c'est 13 victoires et 3 nuls.
Mais après, je trouve qu'il y a le match contre le PSG où vraiment ils ont fait une prestation aboutie. Je parle de celle au Parc. Après, il y a quand même aussi des victoires face à une adversité qui est pas énorme. Hier, j'ai regardé le match pour le coup. Alors, j'ai pas du tout reconnu la Real Sociedad, mais c'était porte ouverte.
C'est ça.
Ils rentraient comme dans du beurre. Hein. Donc, je n'enlève rien évidemment à la qualité du Barça. Mais c'est vrai que quand on voit le match aller du Parisien où ils sont arrivés très facilement à isoler Messi et donc à rendre Messi impuissant pendant tout un match, là, tu avais des tels espaces que Messi, de toute façon, sa qualité évidemment et son talent, il le perdra jamais. Donc, si tu lui laisses des espaces, c'est régalade. Et hier, c'était régalade. Et la Real Sociedad, c'était pour ça. Et le Barça concède quand même des occasions, toujours, même s'il y a un système qui est différent.
Exactement. C'est ça. C'est que défensivement, le Barça...
Leur système est mieux, ça les protège plus, mais j'attends de voir lors des grands rendez-vous aussi.
Alors, il va y en avoir des grands rendez-vous. On l'a dit, il y aura le 9 mai, le match contre l'Atlético, mais il y aura un mois avant, le 10 avril, c'est-à-dire demain quasiment, hein, dans trois semaines, le match contre le Real. Au Real, et ça vaudra cher, parce que le Real est aussi dans la course, finalement, à deux points des Barcelonais. Mais le Real, c'est un petit peu différent. Le Real, on a l'impression que c'est Benzema, quoi. Qui a encore marqué un doublé, qui est stratosphérique toute la saison. Ouais. Oui, et passeur décisif, le match complet. C'est vrai qu'autant Barcelone, on se dit, tiens, ça y est, c'est revenu. Il y a eu quelques mois, collectivement, ça n'allait pas très bien. Même Griezmann se met à marquer 8 buts dans une saison.
Je vous trouve dur, parce que moi, je trouve
Vous trouvez que le Real, ça n'est pas que Benzema en ce moment?
Ah oui, loin d'être que Benzema. Benzema, si vous voulez, c'est la star absolue aujourd'hui de l'équipe. Mais Modric, je trouve, revient à un très très bon niveau. Ouais. Casemiro aussi. Ça fait que le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, c'est devenu très costaud. Derrière, le retour de Ramos. Alors, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Déjà, c'est lui-même est un joueur top. Et ça rend Varane encore meilleur. Maintenant, le petit problème, évidemment, pour eux, c'est devant. Ils n'ont peut-être pas une qualité exceptionnelle, mais un joueur comme Vinicius est capable d'exploits, de folie, on ne sait pas pourquoi, mais pas de régularité. Moi, Lucas Vázquez, à droite, même défenseur, je trouve qu'il peut apporter aussi quelque chose offensivement. Donc, je pense que c'est une équipe qui se retrouve un peu dans la situation quand elle avait gagné ses Ligues des Champions. On ne disait pas, c'est exceptionnel, ça joue magnifiquement bien. Non, mais en tout cas, ils ont une maîtrise, une expérience, une qualité individuelle aussi, qui fait qu'à un moment, il faut s'en méfier. Moi, à mon avis, il faut s'en méfier même pour la Ligue des Champions, puis même pour le championnat. Hein. On ne sait jamais. Et là, ce qui sera un truc exceptionnel de Liverpool, Zidane, quand même.
La Ligue des Champions, c'est un quart face à Liverpool. Benzema, 23 buts cette saison et 6 passes décisives en 32 matchs, toutes compétitions confondues. C'est quand même du très très haut niveau. Il reste sur 2 doublés. Alors, vous le savez, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Ah, on parle d'équipe de France.
C'est original.
En tout cas, les questions se posent.
C'est fini.
On le sait tous. Mais Zizou, lui, il est quand même encore là. Il dit, faut y aller. On l'écoute. On va voir.
Comment le comprendre? Tu ne le comprends pas, je ne le comprends pas et beaucoup de gens ne le comprennent pas non plus. Mais bon, pour moi qui suis entraîneur du Real Madrid, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste avec nous pendant la trêve, c'est sûr. Ce qu'il a fait avec ses coéquipiers contre le Celta, encore une fois, c'est spectaculaire. Je suis content parce que c'est un bosseur, il en veut toujours plus, lui comme toute l'équipe. Dès la première minute, nous sommes allés chercher la victoire et nous l'avons méritée.
Je crois que nous méritons la victoire.
Non, mais il peut pas dire autre chose, Zidane. Faudrait juste leur
ah
faire
non,
ça.
Non, non, mais c'est pas, Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, Zidane.
Il défend son joueur.
Non, mais alors, ça qui défend son joueur.
Et l'équipe de France, parce que
c'est totalement normal. Mais il fait semblant d'ignorer la situation. Enfin,
mais bien sûr.
S'il y a bien quelqu'un qui peut appeler Didier Deschamps, c'est Zidane. Oui. En fait, et là, on dirait un nobody, c'est-à-dire vous, moi, qui s'interrogeant sur Zidane
et Deschamps. Pas Olivier. C'est pas un nobody, Olivier. Olivier, je peux appeler Deschamps.
En fait. On se calme un peu, là, d'accord? Un peu de respect à mon égard.
Que Zidane défendre son joueur, bien évidemment, c'est son rôle et c'est normal vu tout ce qu'il lui donne. Mais que Zidane fasse le mec qui est surpris, qui ne comprend pas. En fait, je veux dire, honnêtement,
il y a, une communication qui ne passe pas entre les Pyrénées.
Zidane prendre son téléphone et régler ça en privé.
On sait tous pourquoi il sera pas rassuré.
Je veux dire, même Zidane peut avoir un rôle. Deschamps
était le soldat de Zidane sur le terrain quand même. Donc,
Zidane peut avoir un rôle en disant oui, évidemment, j'ai le meilleur joueur du monde dans mon équipe, c'est Karim Benzema. Il serait important pour l'équipe de France. Il faut que Karim aille vers les Bleus. Il faut que Didier Deschamps aille vers les Bleus. Enfin, un peu un discours de conciliateur.
Un médiateur un peu, ouais.
Ouais, il fait médiateur. Je veux dire, cette sortie, moi, je la comprends pas.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est parce que simplement, on continue à lui poser la question en Espagne, sans doute.
Après, de toute façon, c'est un secret de polichinelle. On sait très bien qu'il ne retournera pas. Tant que Deschamps sera là, il ne retournera pas, on est sûr. La seule chance qu'il a, c'est que Zidane prenne l'équipe de France. Et là, il l'appellera certainement, même à 35 ans ou 36 ans, il l'appellera. Juste pour la symbolique, c'est sûr et certain. Si Zidane arrive en équipe de France, je suis sûr et certain qu'il appellera Benzema.
Surtout que Benzema est un type de joueur très étonnant. C'est-à-dire que quand moi j'étais plus jeune et que je m'intéressais au football, on pensait qu'un attaquant au-dessus de 30 ans, ça commençait à dépérir très sérieusement. On disait 28-30 ans, c'est l'âge le plus idéal. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Vous avez des attaquants qui ont 33, 34, 35, 36, 37 ans, et même Ibrahimovic, il court pas tellement évidemment, qui a quasiment 40. Donc aujourd'hui, vous dites qu'à cet âge-là, avec une préparation,
il travaille aussi.
Ah ben, le travail.
En dehors des entraînements collectifs, il travaille. On le voit sur ses réseaux sociaux. Le mec, il bosse. Donc il n'y a pas non plus de surprise. C'est-à-dire que t'es récompensé, t'es là. De toute façon, plus l'âge passe, si t'es pas sérieux, tu peux pas tenir. C'est impossible. Donc les mecs sont vraiment des bosseurs et on peut lui tirer le chapeau parce que franchement, mentalement aussi, de rester quand même. Dans le travail et de se dire bon bah je verrai pas en équipe de France mais au moins je suis performant avec le Real,
c'est une source de motivation, franchement.
Mais là où Didier Deschamps est très fort quand même, c'est qu'il arrivait à éteindre totalement tout débat, déjà parce qu'il est champion du monde sans lui, donc à un moment on va pas lui dire il faut absolument Benzema. Il dit pourquoi, pour gagner 8-1 la finale au lieu de 4-2 par exemple? C'est déjà d'avoir gagné, c'est déjà bien. Vous êtes en finale de l'Euro, donc finale de l'Euro, finale gagnée de Coupe du Monde, donc vous avez à peu près tout réussi. Mais en revanche, là où il est fort, Didier Deschamps, c'est qu'il a une telle emprise sur tout l'environnement de l'équipe de France que même nous, journalistes, par exemple, on ne lui pose plus la question. Alors que vous seriez en Angleterre, j'imagine, à peu près à chaque conférence de presse, il y aura un moment, et alors Zidane, Benzema. Donc, alors, ce qui aurait été pas mal, effectivement, peut-être de la part des gens, c'était de répondre une bonne fois pour toutes. Tant que je serai là, il ne mettra plus les pieds pour des raisons qui dépassent le cadre du football. Et puis, ça s'arrêtait. Mais là, il ne l'a jamais vraiment dit. Et ça fait que ça pourrait être quelque chose d'assez récurrent. Mais pas du tout.
Pourquoi Zidane n'a pas un discours? Parce qu'il peut tout dire, évidemment, Zidane. Oui, Karim a peut-être fait des erreurs. Il y a eu des maladresses avec l'équipe de France. Didier aussi. Mais pour le bien de l'équipe de France, il faudrait qu'il se retrouve.
Si tu dis, je pense qu'il est temps qu'il revienne en équipe de France, déjà, tu balances un peu truc.
Et puis, reconnaître qu'il y a eu des maladresses. Je veux dire, le cas a été très mal géré des deux côtés. Et Karim Benzema a.
Mais surtout aussi. De la part de Benzema.
Oui, voilà.
Ah, pour moi, c'est de la part de Benzema.
Il y a eu des maladresses. Donc, Zidane, il a cette chance-là de pouvoir peut-être un peu changer les choses aussi.
Mais on va arrêter de gérer ce cas-là pour aujourd'hui.
D'accord, c'est comme vous voulez.
Je vais vous emmener en Afrique. Vous aimez bien.
Avec plaisir.
Vous allez
plaisir.
Être là. Alors, on y va, monsieur Baduel. Je parle de vous, monsieur Penaud, mais je vais demander quand même leur avis à nos deux autres invités du jour. Ouf ! Quelle semaine et quel week-end pour décanter ce qui devenait intenable comme position, celle principalement de la France qui appliquait à la lettre une circulaire de la FIFA qui voulait qu'en cas de plus de 5 jours de quarantaine au retour, les clubs pouvaient ne pas libérer leurs joueurs qui partaient en dehors de l'espace européen. Impensable, alors que se disputent à partir de mercredi les deux dernières journées de qualif à la CAN, impensable en Afrique donc. 19 places sur 24 restent à prendre en vue de la CAN au Cameroun en janvier prochain. Donc le Cameroun est qualifié, l'Algérie, le Sénégal, le Mali et la Tunisie. Tous les autres doivent valider, ils doivent batailler et sans leurs meilleurs joueurs. La compétition aurait été faussée et gâchée, donc on le sait tous. Il y a la Fédération Sénégalaise Galaise a envoyé une lettre, et il y a des voix qui se sont élevées. On a entendu Bruno Genesio, on a entendu Christophe Galtier, on a entendu Rudy Garcia dire mais c'est pas normal. Et puis d'autres, et puis sur le continent, ça a bougé. On a eu des sélectionneurs. Depuis une semaine, vous vivez ça quasiment quotidiennement sur les antennes de RFI. On va y entendre dans quelques secondes Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin, qui est dans ce cas, hein, qui avait, il va nous l'expliquer, 18 ou 19 joueurs sur 31 qui jouent en France. Il allait jouer deux matchs capitaux pour eux, hein, on rappelle, quart de finaliste de la dernière édition, les Béninois. Il leur manque un point ou deux pour aller au Cameroun. Vous en avez pensé quoi, Eric, de tout ce pataquès et de cette situation compliquée, induite par la FIFA, mais bien respectée par la France?
Ouais, un peu trop bien respectée. Après, tu dois laisser libre aux joueurs de choisir, certainement. À un moment donné, il y a des restrictions, forcément, on peut comprendre parce qu'on est dans une situation un peu particulière au niveau sanitaire, mais je pense qu'il doit y avoir une liberté des joueurs à un moment donné, de leur laisser. Est-ce que tu as envie d'aller, est-ce que tu as envie d'aller défendre ton pays, parce qu'ils ont tous envie, mais est-ce que tu as envie de prendre le risque et d'être arrêté après, parce que les conséquences sont derrière pour le club. C'est-à-dire que c'est aller jouer avec la sélection, c'est pas le problème, c'est surtout de après pouvoir revenir pour le club et jouer pour le club. Et comme beaucoup de clubs jouent une situation un peu compliquée, c'est-à-dire le maintien pour certaines équipes en Ligue 1 ou le titre pour d'autres, c'est important de savoir trouver un juste milieu. Il y a plusieurs matchs à jouer, peut-être jouer simplement un seul match,
ou c'est
peut-être
ce qui se passe pour certains, c'est ce qu'a négocié Naby Keïta avec la Guinée, et comme ça Liverpool l'a lâché rapidement. Karine,
je trouve que c'est totalement une honte, mais le problème n'est pas réellement réglé, parce que ils expliquent que les joueurs doivent revenir en jet privé, sauf qu'il y a des sélection qui ne rapatrie pas leurs joueurs en jet privé, donc comment ça se passe?
Qui n'ont pas les moyens. C'est l'État qui va mettre la main à la poche. On n'a pas gardé cette partie-là dans l'interview qu'on a fait de Michel il y a une petite heure maintenant, mais c'est clairement l'État béninois, et ça va être le cas dans des tas de pays. C'est l'État qui va aider la fédération à affréter un vol privé au retour, puisque c'est ça qui est demandé, hein, un vol privé au retour. Hervé?
Le scandale, il vient surtout du ministère des Sports, qui au départ avait accepté une dérogation pour les Français et pas pour les autres. Moi, ouais, c'est surtout ça. Parce que si vous estimez qu'il y a 7 jours pour tout le monde, si tout le monde est logé à la même enseigne, que vous soyez serbe, malien, français, c'est pareil. Mais dire, on l'accepte pour les Français, mais pas pour les autres, ça veut dire un Bosniaque qui pouvait jouer en Bosnie le match contre la France, va pas le jouer.
C'est ce que disait Depay,
en plus. Va pas le jouer parce que lui, on l'interdirait de revenir, mais par contre, le Français l'aurait. Imaginez simplement qu'on ait fait la même chose à Didier Deschamps avec les joueurs anglais. Je peux vous dire que ça aurait eu lieu.
Bien sûr.
Donc, ça s'est résolu dans le week-end. Heureusement, on va pouvoir avoir des super matchs pendant les 8-10 jours qui viennent. Et je vous propose d'écouter la réaction enregistrée il y a une petite heure maintenant de Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin. Et on l'entend sur la longueur, il livre son sentiment. Allez.
Beaucoup de renversements de situation, de mauvaises nouvelles et puis enfin d'une bonne nouvelle. On espérait toujours que la situation pourrait se débloquer jusqu'à la dernière minute et ça a été le cas. Donc c'est vrai que c'est un soulagement parce que pour nous, sur les 31 joueurs préconvoqués, on a 18 qui jouent en France. J'avais 7 titulaires qui étaient absents sur le 11 débutant. Donc ça impacte quand même beaucoup sur notre équipe.
Oui, parce qu'il vous manque, encore au moins un point, si ce n'est plus. Vous êtes juste un point derrière le Nigeria que vous allez recevoir samedi, et vous avez la Sierra Leone qui menace encore, qui pour l'instant est à 4 longueurs. La Sierra Leone, chez qui vous irez jouer la semaine prochaine. Vos joueurs sont arrivés là déjà. Ça y est, vous êtes avec eux. Les entraînements reprennent dès ce lundi ou à partir de demain?
Non, j'ai un effectif très restreint puisque les joueurs ont été d'abord un peu rassemblés sur Paris, et puis donc ils arrivent tous ce soir par Air France. Il était question à un moment donné de faire un vol affrété pour l'aller, mais finalement, comme ce n'est pas obligatoire, que c'est juste pour le retour que les exigences sont portées par rapport à un avion privatisé, donc ils sont sur des vols comme un vol commercial et on les attend pour ce soir.
Alors, vous avez donné votre liste. Il y a les habitués, il y a tous ceux que l'on connaît, comme Steve Mounier, qui, dans un premier temps, avait dit qu'il ne pouvait pas vous rejoindre. Et puis, comme tout ceci s'est débloqué, il sera finalement bien là pour ces deux matchs importants. Vous avez inventé le concept d'invité spécial?
Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas...
On parle de Stéphane Cessaignon. Hein.
Oui, bien sûr, on parle de Stéphane Cessaignon. C'était important quand on est dans ces deux rendez-vous très importants pour la suite de bénéficier de la présence de Stéphane au sein du groupe, parce que c'est un joueur qui a un leadership énorme dans l'équipe et qui rassure aussi serait-ce que par sa présence, même si c'est pas la présence sur le terrain, mais qui rassure aussi tout le monde. Maintenant, Stéphane n'est pas dans les meilleures conditions, c'est clair. Il va s'entraîner avec le groupe des loges, parce que même pour lui, ce sera un bonheur et un plaisir. Ben, on verra en fonction de ce qui se, des événements, comment ils se déroulent. Et aussi, Stéphane va ressentir à travers ses entraînements ce que je vais ressentir à travers les entraînements.
Vous allez retrouver des joueurs en tout cas morts de faim. J'imagine qu'eux aussi n'ont pas passé des très bons derniers jours. Ils avaient envie de venir. Vous pensez que ça peut les avoir motivés encore plus, ou peut-être qu'ils ont perdu un peu d'influx ?
Non, je pense qu'ils sont d'abord délivrés aussi d'un poids, parce que ça leur pesait beaucoup. La sélection nationale, ça compte beaucoup pour les joueurs, quels qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient. Donc ça compte énormément. Qui plus est, quand il y a des enjeux majeurs, comme c'est le cas sur les deux prochaines journées, avec une qualification au bout, ils ont tous goûté à la CAN. Ils ont envie d'y retourner, évidemment. Ils ont de l'ambition. Donc oui, ils étaient dans la frustration, ça a dû perturber leur semaine de travail, mais aujourd'hui, ils étaient déjà motivés. Je pense que ils sont déjà à bloc au niveau de la motivation. Donc le fait de savoir effectivement qu'ils viennent nous rejoindre et qu'ils seront de la fête, c'est quelque chose de qui apporte encore un surcroît de motivation.
Tout est bien qui finit bien, a priori. Pour le moment, en tout cas, vous allez récupérer vos joueurs, comme d'autres sélectionneurs en Afrique. La dernière question, forcément, c'est, dans cette histoire, il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu, une institution, c'est la CAF. Et on s'est tous un peu interrogés. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, elle n'a toujours pas parlé, la CAF, au sujet de tout ce qui s'est passé. J'imagine que pour le sélectionneur, pour les dirigeants que vous avez pu rencontrer, c'est une question qui s'est posée quand même ces derniers jours. Eh oh, on est là et on aimerait bien pouvoir compter sur vous.
Oui, c'est vrai, quelles que soient les circonstances, parce qu'il y avait des élections, mais quelles que soient les circonstances, la CAF est une institution qui doit être organisée et qui doit savoir gérer les situations, même quand il y a des élections qui arrivent. Je regrette leur silence pesant, quoi, dans cette affaire, parce que le CONMEBOL s'était positionné rapidement, et derrière, au niveau de la CAF, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de posture, il n'y avait pas de prise de position. Donc, c'est vrai qu'on se sent un petit peu livré à nous-mêmes. La CAF représente les pays africains et doit défendre les intérêts des Africains. Voilà, je suis un peu moins en colère parce que ça se finit bien, mais je vous avoue que voilà, j'ai beaucoup de frustration. Et beaucoup de colère, parce que c'était d'abord pour la FIFA, pour avoir fait cette circulaire, pour la CAF, pour son immobilisme, et puis la Ligue des footballeurs français, parce que pour leur décision. Donc maintenant, c'est derrière nous. Il faut qu'on se concentre maintenant sur nos échéances et bien se préparer.
Et ce match qu'il disputera à la tête des écureuils du Bénin, samedi prochain, à Cotonou, face au Nigeria de Gernot Rohr. C'est vrai que ça valait le coup, cette explication. On a senti qu'il était soulagé maintenant, mais qu'il en avait gros sur la patate. La CAF, la FIFA, la Ligue, tout le monde a pris.
Mais je le comprends, et je comprends son courroux, on va dire. Mais comme il le dit lui-même, étant c'est passé, il faut passer à autre chose. Et c'est autre chose, c'est évidemment la qualification. Mais il faut se concentrer surtout sur ça. Puis au final, il y aura quand même très peu d'absents. Même s'il y a certains pays qui ont décidé d'utiliser beaucoup de locaux, comme le Mali, par exemple.
Mais le Mali est déjà qualifié.
Exactement, ils ont choisi cette option.
Un mot, Hervé, puisque je vous tiens. Ce matin, on a appris, et finalement c'était dans l'air, la disqualification du Tchad. Alors le Tchad étant dans un groupe, ce qu'on comprend pas bien, c'est que comme il a joué plus de 4 matchs, les matchs d'avant comptent encore. Et donc la Guinée n'est pas qualifiée, le Mali l'est toujours. Mais la Guinée va devoir batailler parce que, en fait, on donne juste match perdu 3-0 pour les deux derniers matchs qu'il devait jouer, c'est-à-dire face à la Namibie, qui est encore dans le coup face aux Guinéens. Et puis l'autre équipe, ça m'échappe un peu. Mais en gros, voilà, l'État tchadien avait décidé de virer la fédération et de nommer un comité de normalisation présidé par Jafet Doram. Et bien sûr, la CAF via la FIFA a fait dire...
Exactement, mais c'est la classique. Hein, c'est la classique. Alors maintenant, effectivement, c'est pour les éliminatoires que ça pose vraiment un souci. Ah oui, parce que là, d'un seul coup, ça s'arrête au milieu. Alors c'est peut-être le règlement. Et là, je ne connais pas ce point
c'est
de
règlement. C'est le règlement.
Donc là, à un moment, s'il y a un règlement, ben, on l'applique. Hein, malheureusement, malheureusement pour la Guinée. Mais ils ont les moyens de se qualifier sur le terrain.
Et le règlement chez nous, c'est qu'à 58-45, il y a des gens qui veulent vous faire un petit coucou et nous faire gagner des sous. À demain.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfer International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique.